Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie?
Alors, mon Dieu...
Ils sont pas toutes comme ça, les questions.
Ah, je crois qu'à ce genre de questions, il faut répondre spontanément, sans réfléchir. Ce qui me vient, c'est évidemment l'amour, mais il se décline évidemment de manière très diverse, puisqu'il y a l'amour des autres, l'amour du monde et l'amour de la sagesse, la philosophie. Mais dans les trois cas, même si évidemment le rapport qu'on a à la sagesse, aux autres et au monde ne sont pas les mêmes, dans les trois cas, c'est une réponse totalement banale, mais que j'assume, dont j'assume la banalité, l'amour.
Bonjour Éric Fiat, professeur de philosophie à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, est l'auteur du Petit Traité de Dignité, paru aux éditions Larousse. Il était en novembre 2013 l'invité des lundis philo du Pianoctel de Bouguenay. Nous l'accompagnons dans la rue. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à étudier la philosophie?
Alors, l'occasion a fait le larron. Je suis un bon petit élève. Et je dis cependant, quand je suis en troisième à mes parents, moi je veux faire des lettres, je ne veux pas faire des sciences, des maths. Mais tout le monde, et mon père, de dire, mais non, un bon élève, ça fait des sciences. Et je me retrouve, à l'époque c'était en seconde C, et encore très bon petit élève, ce qui est un peu ennuyeux quand la libido se manifeste, puisque les filles, qui étaient déjà des femmes, me prenaient pour un bon petit élève. Et il fallait que je cesse d'être un bon petit élève pour éventuellement pouvoir leur plaire. Bref, je me mets à plus travailler, je ne fous plus rien. Je ne leur ai pas plu pour autant d'ailleurs, mais enfin, c'était comme ça, c'était mon espérance. Je redouble ma première et là, je rencontre deux profs, qui n'étaient pas des profs de philo, c'était en première. Mais je rencontre un prof d'allemand et un prof de français. Dès le premier cours, enfin, je me dis, voilà, ces gens-là me parlent de ce qui m'intéresse vraiment. Le prof d'allemand nous fait écouter un Lied de Schumann, Dichter Liebe, Les Amours du Poète. Le prof de... le français nous parle de Montaigne, je ne sais plus quel passage des essais, et je me dis, mais voilà ce que j'ai envie de faire. Et l'un comme l'autre me disent, mais ce qui va t'intéresser, c'est la philo, plus encore plus que l'allemand, plus encore que les lettres. Et j'arrive en terminale plein d'espoir. Bon, je dirais que la prof de philo ne m'a pas dégoûté de la philosophie, elle ne m'en a pas donné le goût, mais bon, ce n'est pas elle qui m'en a donné le goût. Mais le goût a été pérenne, il a continué, et puis après, voilà, j'ai continué comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer en hippocagne comme en cagne des maîtres, vraiment des maîtres. Voilà. Donc je crois que c'est, là aussi, c'est une réponse banale, on dirait une réponse de Sandrine Kiberlin à une mauvaise intervieweuse. Qu'est-ce qui est important dans votre carrière? Ce sont les rencontres. Mais bon, j'assume là encore cette nouvelle banalité. Alors peut-être qu'ils m'ont aidé à devenir ce que j'étais, ce sont des occasions, mais ce sont beaucoup plus que des occasions. Si je n'avais pas rencontré ces gens-là, je ne sais pas si j'aurais fait de philo. Voilà ma réponse.
Ce sont les questions banales qui renvoient à des réponses banales?
Non, pas du tout. Non. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai cette pudeur ou ce scrupule de dire des banalités, pas du tout. Vos questions ne sont pas banales du tout. Il n'y a pas obligation à s'appuyer sur un auteur pour philosopher, mais c'est plus dur. Je veux dire par là que les petites intuitions qu'on a quand on réfléchit, les petites trouvailles qu'on peut faire quand on médite, bien souvent, ne sont pas si originales qu'on le croit. Et bien souvent, on se rend compte que les intuitions qu'on a eues, d'autres grands auteurs les ont eues et qu'ils les ont exprimées avec une puissance, un art de la nuance qui nous manque. Que les petites trouvailles qu'on a faites ne sont pas originales. Donc, il est difficile de philosopher sans lire les grands philosophes. En même temps, les lire, ça n'est pas forcément les suivre. On ne peut pas se passer d'eux, mais je croirais dangereux qu'on se limite toute sa vie à un auteur. Je ne dirais pas « je suis pascalien » ou « je suis kantien ». Alors après, ça dépend évidemment des objets et des sujets qu'on travaille. Et c'est vrai que sur un sujet comme la dignité humaine, Bon, il m'a semblé que Kant était vraiment un auteur absolument indispensable. Et si on veut essayer d'affirmer la dignité humaine sans forcément l'affirmer du fait que l'homme serait fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu, bref, si on veut affirmer laïquement la dignité de l'homme, je vois mal comment on pourrait se passer de Kant. Et c'est vrai que sur la dignité, c'est un auteur qui me paraît indispensable. Ça ne veut pas dire que je le suis complètement. Il me semble que, bon, comme dit notre ami Jean-Claude Amezen, mais ce n'est pas lui qui a inventé l'expression, sur les épaules des géants. Donc on est sur les épaules des géants. Et puis des fois, le nain qui est sur l'épaule du géant voit une petite chose que le géant sur les épaules de qui il est n'a pas tout à fait vue. Bon, alors moi, l'impression que Kant, au sujet de la dignité, ne voit pas assez ou ne dit pas assez le besoin que la dignité humaine a d'être reconnue par autrui. C'est-à-dire que si ma dignité intrinsèque, absolue, inaliénable, n'est pas reconnue par autrui, oh certes, elle existe, mais elle existe plutôt en puissance qu'en acte. Et donc, je suis Kant sur la dignité en très bonne part, mais je trouve qu'il ne dit pas assez, qu'il ne voit pas assez le rôle fondamental joué par autrui dans l'accès d'un homme à sa propre dignité ou dans la conscience qu'un homme peut prendre de sa dignité. I just wanna live my life with dignity, plowing my land for my family. Too much suffering in my country. I want a decent life for me, my baby.
Est-ce que vous avez une définition de la dignité humaine ?
Une définition, c'est difficile. Je dirais que la dignité, c'est à la fois quelque chose que l'on se donne et quelque chose que l'on peut donner.
Vous avez un exemple, non ?
Oh non, je pense que ça parle.
Ça vous parle ?
Ah oui, oui, c'est très beau, c'est très beau, c'est très bref, c'est très pascalien. En quelques mots, on dit l'essentiel.
La dignité, oh là là, vous me posez une question, je sais pas trop, je sais pas, franchement non.
T'as eu le temps de réfléchir ?
Même pas une petite idée ?
Non, même pas. Vous avez choisi les mauvais, mauvais interlocuteurs là.
Il y a plein de choses qui me viennent, mais plus des choses où il n'y a absolument aucune dignité justement.
Par exemple ?
Par exemple, ce qu'on a pu entendre les derniers temps, « mange ta banane, la guenon » ou ce genre de choses, où je trouve effectivement que la dignité, ouais, ça en manque un petit peu. Voilà.
J'ai pas entendu ce que vous avez dit.
Je disais que ce qui me vient avant tout, c'est plus les contre-exemples. Voilà.
Vous avez donné quel contre-exemple ?
« Mange ta guenon ». Mange ta banane, la guenon, ce genre de choses. Oui. Ce genre de petites choses. Et je trouve qu'en ce moment, il y a tellement de...
Des manquements au respect de la dignité humaine.
Ouais, tout à
fait. Voilà. Plus qu'avant ? Plus que...
Ouais, depuis quelques mois, ouais. Bon, enfin, j'en entends beaucoup plus qui me désole, en fait.
C'est vrai, ouais. J'ai peut-être un peu le même sentiment que vous, oui. Dans nos principes républicains, il y a le respect de la dignité humaine, c'est-à-dire l'idée d'une dignité attachée à la personne humaine comme telle. Et donc, qu'on soit homme ou femme, noir ou blanc, juif ou grec, on aurait une certaine valeur. Or, ce respect, oui, il n'est pas la chose du monde la mieux partagée. On a l'impression qu'il y a comme des vannes, des barrières qui sautent. Et en effet, on n'aurait peut-être pas entendu ce genre de choses il y a quelques temps.
Que ce soit cet exemple ou d'autres, hein, je trouve qu'en ce moment, on en entend beaucoup, de plus en plus. Mais voilà.
Non. Ouais, non, c'est vrai que je rejoins un petit peu son point de vue. Après, peut-être qu'on devient aussi un petit peu plus individualiste et qu'à un moment donné, voilà, il y a peut-être un ras-le-bol, je sais pas. Le rapport humain il en prend un petit coup là. Et c'est vrai que ça me dérange moi aussi, mais bon. Voilà, on est parti un petit moment aussi de la métropole, donc peut-être qu'on on était...
Vous êtes sœur ou mère et fille ?
Non, on est amis.
Bon.
On était parti pendant 8 ans, là, une dizaine d'années en Guadeloupe, et c'est vrai qu'en venant en métropole, on est un petit peu surpris du comportement des gens et envers les uns, envers les autres. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'exemples qui nous montrent que la dignité à la personne, elle est un petit peu bafouée. Le respect aux autres est un petit peu mis de côté.
Une personne digne, est-ce qu'on pourrait la décrire ?
Alors, une personne digne, pour moi, serait peut-être une personne respectueuse, une personne bien dans sa peau, une personne à qui on pourrait faire confiance. Pour moi, ce serait peut-être ça, une personne digne. Ouais, digne de confiance, définition.
Tous les êtres humains sont porteurs d'une dignité ou pas ?
Est-ce qu'il J'espère.
Suffit d'être homme pour être digne ou pas ?
Oula !
Oui, t'as pas entendu le début, c'est philosophique quand même à la base.
Oui.
Mais il y en a qui la perdent au fur et à mesure, simplement. Qui, par la force des choses, par leurs actions de chaque jour, la perdent.
Est-ce qu'ils perdent leur dignité ? Parce que s'ils perdent leur dignité, pourquoi est-ce que vous leur donneriez du respect ?
J'ai pas dit que je leur en donnais.
D'accord. Mais est-ce qu'ils perdent leur dignité ou est-ce qu'ils... Moi, je dirais qu'aucun homme ne perd sa dignité. La dignité est partie constitutive de l'homme. Que même le pire des salauds ou même le pire des humiliés... Parce qu'il y a deux manières, on pourrait dire, de perdre sa dignité. Soit on a une conduite indigne, soit on est dans une condition indigne. Quelqu'un qui se retrouve violé, méprisé, va dire « j'ai perdu toute dignité ». Et quelqu'un qui va très mal se conduire, de lui, on pourrait dire qu'il a perdu sa dignité. Bref, il y a la conduite, qui peut être une offense à la dignité humaine, et puis il y a la condition dans laquelle on est, qui peut être aussi une offense à la dignité humaine. Et moi, je ne dirais pas que les êtres humains peuvent perdre leur dignité. Ils ont des conduites qui sont indignes de leur dignité. Et puis, le violeur, il a une conduite indigne de la dignité humaine. Et puis... La violée, elle est dans une condition indigne de la dignité humaine. Mais moi, je dirais qu'il faut essayer d'accorder du respect, même à ceux qui manquent de respect. C'est l'invention magnifique de la justice moderne qui fait que même le pire des salauds, bref, celui qui a le plus attenté à la dignité humaine, il a le droit d'être défendu. On lui parle avec respect. Le juge le vouvoie. Si vous dites « vous » à quelqu'un qui est tout seul, c'est une manière de dire qu'il y a du divers en lui. Il y a toi et ton crime affreux. Mais tu vaux mieux que ce que tu as fait. Il y a en toi quelque chose qui n'est pas réductible à l'acte que tu as eu. Et voilà pourquoi, même si tu es tout seul, je te dis vous. La justice, la belle justice moderne, elle protège d'ailleurs le criminel de la foule qui a la bave aux lèvres, qui veut le lyncher, Elle refuse la torture. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'elle doit légitimer le crime, mais je crois que ce distinguo entre la conduite et la personne est quelque chose à maintenir toujours. C'est-à-dire que même le pire des salauds, il a le droit d'être défendu. Imposons-lui le respect qu'il a refusé aux autres. Je crois qu'en faisant ça, en effet, on se rend digne de notre dignité, nous. Et je crois que l'homme est digne de sa dignité quand il essaie de ne pas répondre à la violence, qui est le pire manquement à la dignité humaine. Quand il essaie de ne pas répondre à la violence par la violence, ou la vengeance, ou la haine, mais par quelque chose comme de la justice. Voilà pourquoi moi je dirais qu'un être humain peut avoir une conduite indigne, il peut être dans une condition indigne, mais je ne dirais pas qu'un être humain peut perdre sa dignité. Ça me paraît dangereux de dire qu'un être humain peut perdre sa dignité.
Lui peut penser de perdre sa dignité.
Ah, ça c'est vrai. Ça bien sûr, oui.
Si on prend l'exemple des gens qui sont dans la rue, à un moment donné, c'est pour des raisons X ou Y, qui perdent leur travail, la famille, et ils se retrouvent dans la rue et eux vont... pensent perdre leur dignité.
Moi, je travaille, je suis philosophe, je travaille à l'université, mais la spécialité, je m'occupe d'éthique médicale. La question de la fin de vie. Vous avez des gens qui se trouvent dans une condition, elle plaçait sa dignité, c'est-à-dire sa valeur dans sa beauté, dans l'opulence de sa chevelure, la fermeté de son buste, sa maîtrise. Elle avait tous les hommes à ses genoux et puis elle avait un pouvoir économique. Et voilà qu'elle a un cancer mal barré, elle est découronnée par la chimiothérapie, il lui manque un sein, le cancer galope et du coup elle atteint des organes qui font qu'elle est incontinente avec des couches. Elle peut dire « j'ai perdu ma dignité ». Alors moi je me dirais à ce moment-là « non, vous n'avez pas perdu votre dignité, vous avez perdu le sentiment de votre dignité ». Mais ce n'est pas parce que vous avez perdu vos cheveux que vous êtes indigne, ce n'est pas parce que vous avez perdu la maîtrise de vos sphincters que vous êtes indigne. Et c'est là qu'on a besoin des autres. On peut perdre le sentiment de sa dignité... Mais on a absolument besoin des autres pour qu'ils restaurent ce sentiment de dignité, qu'ils nous disent « mais non, tu n'as pas perdu ta dignité, mais tu en as perdu le sentiment ». Mais on ne peut pas restaurer tout seul le sentiment de la dignité. Comme disait Gabin, le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Le jour où quelqu'un nous aime, c'est le jour où on voit dans l'œil de quelqu'un que, même si on est dégradé, même si on est humilié, on voit dans l'œil de quelqu'un qui nous respecte et qui nous aime, ma dignité, elle est encore là, même si je ne suis plus celle que j'ai été, voyez. Je crois importante cette distinction. Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Non, c'est oui. Tout à fait d'accord, oui. Après, vous parliez tout à l'heure de donner la dignité. Est-ce que dedans...
Enfin, le pas donner, je dirais ouais, restaurer. Parce que si vous donnez, ça veut dire que l'autre, restaurer.
Est-ce que le pardon fait partie de... Je ne sais pas. Enfin, après, c'est une question que je me suis posée quand je vous écoutais. Mais,
Alors, le pardon n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, le pardon peut ne pas venir. Et le seul pardon qui est de la valeur, c'est le pardon qui émane des victimes, de la victime. On ne peut pas se pardonner à soi-même. On peut dire « pardonne-lui ». Et donc, je peux comprendre... qu'on refuse le pardon. Maintenant, j'admire le pardon aussi, qui est quelque chose comme l'injuste sacrifice de son droit, parce que pardonner, c'est donner. Or, si vous donnez, dans pardon, il y a don. Or, si vous donnez, ça veut dire que vous donnez à l'autre plus qu'il ne mérite. Le pardon n'est pas un échange. S'il y a échange, ça veut dire que... au fond, moi, je distinguerais le pardon et la justice. Dans la justice, c'est pour ça le symbole, c'est la balance, dans la justice, il y a égalité. Il y a équanimité, il y a parité, il y a symétrie. Dans le pardon, en revanche, il y a déséquilibre, asymétrie. Pourquoi ? Parce que ce que tu as fait est terrible, inexcusable. Mais je vais aller au-delà. Je vais te donner, au fond, quelque chose que tu ne mérites pas. Et ça, c'est un très beau geste, mais en même temps qu'on ne peut exiger de personne. Et si le pardon était exigible ou automatique, il perdrait toute sa valeur. Le pardon, c'est ça, c'est l'injuste sacrifice de son bon droit. Tu as fait quelque chose. Au fond, voilà pourquoi faut distinguer le pardon et l'excuse. L'excuse, elle vaut pour les petites fautes, c'est pas très grave. Bon, allez, excusez-moi. En revanche, c'est quand les fautes sont inexcusables que éventuellement elles peuvent être pardonnées. Parce que justement, tu m'as tellement offensé que je devrais pas reprendre la relation, je ne devrais pas, et puis je vais quand même donner. C'est-à-dire, je vais donner quelque chose. Donc il y a de la générosité. La générosité, c'est toujours l'excès. Une femme aux formes généreuses, c'est une femme qu'on a un peu trop. Donc le pardon est généreux, et comme toute générosité, il est excessif, parce qu'on donne à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Il ne suffit pas non plus de demander pardon pour avoir droit au pardon, ce serait trop facile. Ceci dit, parce qu'il y a des gens, il y a des larmes de crocodile, il y a des pardons qui sont... Hein, des gens qui ont le remords, qui portent beau. Hein. C'est Strauss-Kahn un peu qui... j'ai fait une faute morale, mais il espère, mais ça va pas, ça. Un remords qui n'est pas sincère, celui qui croit qu'il a droit au pardon, justement, n'y a pas droit. Et donc, on se dit, il faut quand même qu'il demande pardon pour mériter le pardon. Même ça, c'est pas suffisant. On a le droit de refuser le pardon à quelqu'un qui le demande. Mais qu'est-ce que vous en pensez du pardon ?
Ouais, moi aussi, je pense que, enfin, comme vous, c'est vraiment quelque chose, c'est un don, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à donner, enfin, je pense, mais ça, je crois que ça appartient vraiment à...
Vous l'avez donné, le pardon, dans votre vie ?
Non, je pense que je n'ai pas eu des situations qui m'ont amené jusque-là, jusqu'à pardonner.
Il y a une certaine tradition chrétienne qui dit en fait que le pardon, c'est tellement excessif, c'est tellement généreux, que les hommes en sont incapables, et qu'en fait, c'est Dieu qui pardonne. Ça, c'est la grande théorie chrétienne sur le pardon. L'homme est incapable de pardon, mais Dieu peut nous aider à pardonner, éventuellement.
Alors, si Dieu n'existe pas...
Ah oui, là, on est mal barré.
On peut à la fois être gentil, méchant, c'est un peu plus complexe.
Les hommes sont gris. Il n'y a pas d'homme noir, il n'y a pas d'homme blanc. Même chez l'homme qu'on croit le plus pur, vous trouverez une trace de lâcheté, une once de mauvaise foi, un atome d'orgueil. Et même chez les êtres qu'on croit les plus noirs, vous trouverez, en cherchant bien, un petit résidu, un reliquat de bonté, de tendresse possible. Alors évidemment, il y a des hommes gris clairs et des hommes gris foncés de par leur conduite. On ne va pas mettre sur le même plan la vie de l'abbé Pierre et la vie de Marc Dutroux, certainement. Cependant, croyons à cette grisaille qui fait que le méchant est mon frère.
Je suis l'homme le plus méchant qui ait jamais existé. Je sème de la misère, de la mauvaise volonté. Je suis l'acide carbole, j'ai une gueule de poison. Et je soutiens les escrocs et tous les petits cons. Si jamais je commis une bonne action, j'en suis navré.
Quand on est dans sa cuisine, et qu'on est sur le point de plonger un homard dans de l'eau bouillante, est-ce qu'on peut s'interroger sur ce qu'est un comportement digne ou indigne ?
Je mets pas le homard dans l'eau bouillante, je trouve ça c'est terrible.
Autrement.
Je le fais pas.
À petit feu.
Non, c'est horrible.
Une petite truite au bleu. Non, j'aime pas.
Non, j'aime pas ça.
C'est pas l'être vivant, c'est l'être humain.
Ouais, c'est la grande question de la dignité animale. J'aime beaucoup les animaux. Moi, la souffrance inutile de l'animal est un scandale. Mais je ne dirais pas l'animal égal à l'homme en dignité. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas... Par exemple, j'aime tellement les baleines que je m'inquiète beaucoup de la disparition des baleines. Mais en même temps, si les hommes disparaissaient, les baleines s'en foutraient complètement. Donc, bien sûr que l'homme, on peut le regarder comme le prédateur, celui qui fait mal aux autres animaux. Mais il est en même temps le seul à pouvoir se soucier d'une vie dont il n'a pas besoin. Parce que si c'était du besoin, si on avait besoin, par exemple, des abeilles, parce que je ne sais plus quoi, là, ce serait de l'intérêt, ce ne serait pas du vrai souci. L'homme est peut-être celui qui peut faire le plus de mal, mais aussi le seul qui puisse faire du bien en ceci, qu'il est le seul vivant à pouvoir se soucier de la vie d'être dont il n'a pas besoin pour vivre. Et donc, moi, je me soucie de la vie des baleines alors que je n'ai pas besoin des baleines, alors que les baleines ne se soucient pas de ma vie du tout. Et alors, quant aux animaux, bon, qu'on mange, bah oui, trouvons des protocoles, des procédures pour pas qu'ils souffrent. En l'occurrence, les homards, c'est un peu trop cher pour ma bourse, mais j'aime beaucoup les tourteaux. C'est une recette de Jean-Pierre Coff. Pour pas qu'elles souffrent, ces pauvres bêtes, il faut les mettre juste 10 minutes dans le congélateur. La bestiole est estourbie, quand vous la plongez, elle sent rien du tout. Et comme ça, à la fois, on a un bon crabe à manger avec des amis, un bon petit coup de blanc, et l'animal ne souffre pas. Enfin, je pense qu'il souffre pas trop.
Ouais, ça, on le sait pas. C'est vrai que c'est un peu difficile à évaluer la souffrance de l'animal.
C'est difficile, c'est vrai.
Y a quand même... Déjà, la souffrance de l'homme, elle est difficile.
Oui, oui. Mais il y a des signes. Il y a des signes, quand même. Oui.
L'animal vous convient-il ?
Ah, très bien.
Comment le désirez-vous ? Grillé ou thermidor, chérie ?
Thermidor ?
Très bien. Thermidor.
J'ai écrit ce bouquin pour Larousse, Petit traité de dignité, dans une collection. C'était un bouquin qui m'a été demandé par le directeur d'une collection. Et donc, dans cette collection, qui s'appelle la collection Philosophée, il y a une règle du jeu. Il y a une règle du jeu, c'est que je n'ai pas tout à fait suivi d'ailleurs. Mais enfin, mon éditeur m'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, il faut imaginer un dialogue entre deux philosophes sur le sujet. Dans un deuxième temps, il faut présenter les différentes conceptions données par les philosophes de ce sujet. Et dans un troisième temps, il faut dire ce que soi-même on en pense. Voilà le cahier des charges. Et alors, j'ai respecté ça en partie, pas complètement, parce que j'ai essayé de faire un dialogue entre deux philosophes et je ne suis pas arrivé. Ou plutôt, ça ne me plaisait pas. Je trouve qu'il faut avoir un art littéraire tout à fait particulier pour être capable d'écrire un dialogue sans que ça sonne scolaire. Et moi, ce que je faisais me paraissait assez médiocre. Dit le renard, mais oui, répond le lapin. Enfin, je trouvais ça besogneux. Du coup, j'ai proposé à mon éditeur, plutôt que de faire dialoguer deux philosophes sur... la dignité, de faire des portraits de personnages, donc de faire des espèces de petites vignettes, un peu comme des espèces de nouvelles, un peu littéraires plutôt que philosophiques, sur des personnages qu'on dirait dignes, j'appelais ça digne portrait, et puis ensuite sur des personnages qu'on dirait indignes. Et après j'ai repris tout ça, et donc j'étais tenu par la collection en effet de présenter plusieurs conceptions, mais je ne l'ai pas regretté parce que c'est une notion sur laquelle il n'y a pas accord des esprits, parce qu'il y a des conceptions, en effet un petit travail à la fois philosophique et historique me faisait me dire que il y a plusieurs conceptions de la dignité qui sont irréductibles. On le remarque très bien dans les débats aujourd'hui au sujet de la dignité en fin de vie, par exemple. Vous avez beaucoup de nos contemporains qui militent pour la légalisation de l'euthanasie au nom de la dignité humaine. Il y a une association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD, voilà, qui a une certaine conception de la dignité qui la pousse à réclamer la légalisation de l'euthanasie. De l'autre côté, vous avez des tas de praticiens des soins palliatifs, des tas de gens qui, tout au contraire, militent contre cette légalisation au nom de la dignité. Donc il n'y a pas accord des esprits. Et il n'y a pas que deux conceptions de la dignité. Après un petit travail mi-historique, mi-philosophique, je m'avisais qu'il y en a cinq. Et donc je les ai présentées avec, j'espère, équanimité, sans dire tout de suite mes préférences. Comme dit Hegel, il faut penser le présent. Et donc, phénoménologiquement, voir ce que ça dit, en effet, dignité aux gens d'aujourd'hui. Et il n'y a pas accord. Il n'y a pas accord. La définition de madame sera peut-être contredite par une autre ou un autre de nos interlocuteurs qui va dire tout au contraire, pour moi la dignité c'est la tenue, c'est la noblesse. Quelqu'un va nous dire que la dignité c'est intrinsèque à l'homme. Alors c'est l'occasion qu'a fait le larron, il y a une collection, il y a un principe, j'essaie de suivre ce principe-là et finalement je me dis, c'est bien de ne pas aller trop vite à dire voilà ce que c'est que la dignité pour moi. C'est bien dans un premier temps de faire un panorama si possible équanime des différentes conceptions du sujet.
Le philosophe réfléchit à partir d'une définition de concept. On peut parler de cette distinction entre la posturale et l'ontologique.
Par définition, le philosophe doit se méfier des définitions trouvées là. Il peut les admettre sans examen critique. Et donc, ni le petit Larousse ni le grand Robert n'ont forcément raison. Car, comme dit mon maître Dominique Folchède, une définition, c'est toujours une thèse cachée. Et donc, on ne peut pas prendre comme ça, sans examen critique, à son propre compte, la définition d'une notion. Alors ensuite, le principe de cette collection, il s'agit de montrer les différentes conceptions. Bon, j'ai fait ça. Mais ça me paraît intéressant de faire ça sur les notions qu'on a envie de travailler. C'est en un sens ce que faisait Aristote, hein. Puisqu'on est en train de marcher, à philosopher en marchant, puisqu'on est péripatéticien, c'est ce que faisait Aristote qui, à chaque fois qu'il abordait un thème, disait d'abord ce qu'on en disait généralement, avec une sorte de déférence un peu amusée à la sagesse des anciens, avant que d'insinuer comme ça une sagesse nouvelle, une pensée nouvelle. Mais j'aime bien ce style-là finalement, oui, en effet assez aristotélicien. Quand il aborde l'amitié... Voilà ce qu'en dit Épicure, voilà ce qu'en dit un tel, voilà ce qu'on en dit. Bon. Alors il s'étonne parfois de la différence, parce que certains disent qu'il n'y a d'amitié qu'entre ressemblants, d'autres disent qu'il faut dissembler pour être ami. Bon. Et après qu'il a acquitté sa dette à l'endroit des anciens, des bons vieux maîtres, il insinue une pensée plus personnelle sur la notion en question. Donc c'est l'occasion qu'a fait le larron, c'est le principe de cette collection qui m'a fait d'abord... étudier les différentes conceptions de la dignité. Mais ensuite, j'en ai été content, oui, parce que ça donne un tour un peu aristotélicien, cette approche. Voilà. Alors après, pour les deux définitions, oui, en effet, fondamentale, ontologique et posturale, bon, entre les deux, il est urgent de ne pas choisir, parce qu'évidemment, beaucoup de confusions viennent du fait qu'on ne parle pas de la même chose quand on entend le mot dignité. Certains s'attachent à la conception ontologique, d'autres à la conception posturale. La conception ontologique, c'est... Ontologique, ça veut dire dans l'être même, c'est-à-dire dans l'être même de l'homme, il y a quelque chose qui vaut absolument. Dignité vient de dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Et donc, donner une définition ontologique de la dignité humaine, c'est dire qu'il y a dans l'être même de l'homme quelque chose qui a une valeur absolue, intrinsèque, inaliénable, inconditionnelle, inconditionnée. Mais il y a aussi une définition posturale, c'est la définition bourgeoise, par exemple, de la dignité. Un homme très digne, c'est un homme qui se tient, qui se retient, qui se contient, qui se maintient. C'est la dignité comme décence. Et alors, si on s'en tient à la définition ontologique, tous les êtres sont dignes, ils le sont également. Si on s'en tient à la définition posturale, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a la vieille dame très digne qui se retient, qui se maintient, qui se contient, va être jugée plus digne que la clocharde qui hurle, qui urine dans la rue, etc. Et moi, je crois qu'on a besoin des deux définitions. Parce qu'il y a une dignité ontologique de l'être humain, tout être a une valeur absolue, mais ensuite il faut qu'il en soit digne de cette dignité. Il ne suffit pas de dire tous les êtres humains sont porteurs d'une dignité. Il faut ensuite les appeler à essayer d'être dignes de cette dignité par une conduite qui ne soit pas justement basse, lâche, veule, violente. Et c'est là qu'une certaine posture entre en ligne de compte. Alors après la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait passer avant, l'ontologique ou le postural ? Eh bien, moi, je fais passer l'ontologique avant le postural. Les bourgeois font passer le postural avant l'ontologique. Voilà pourquoi les bourgeois vont dire il y a des gens dignes, il y a des gens indignes, il y a des gens très dignes, il y a des gens pas très dignes. Et ils vont dénier toute dignité, justement, aux prostituées, aux clochards, etc. Moi, non, je pense qu'il faut d'abord voir cette part de sacralité qu'il y a en tout être humain avant qu'ensuite d'aller voir ce qu'il en fait. Donc, entre les deux définitions, je crois qu'il est urgent de ne pas choisir. Simplement, le grand débat philosophique, c'est qu'est-ce qu'on fait passer avant ? Et là, moi, je fais passer l'ontologique avant le postural.
Merci à Éric Fiat, professeur de philosophie à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et auteur du Petit traité de dignité paru aux éditions Larousse. Et merci à Estelle Virginie pour leur libre participation à ce reportage réalisé dans le cadre des lundis philo du Pianoctel de Bouguenay.
J'ai trouvé ça très agréable, spontané, vif. Je retiens la discussion avec ces deux dames qui était très agréable, très enrichissante. Non, j'aime beaucoup ça. Je retiens aussi qu'on a eu un temps magnifique. J'aime beaucoup l'automne, moi beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup l'automne. Il ne pleut pas, le soleil déclinant, c'est très très agréable. Donc j'en retiens un grand grand plaisir. C'est déjà bien. Si.
Philosopher comme ça dans la rue, ça fait du bien.
Ouais, je trouve que ça fait, ça nous permet de prendre 5 minutes, se poser des questions, réfléchir un peu sur des termes comme ça qu'on peut entendre sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est un exercice assez intéressant.
Dans votre quotidien, ça vous arrive de vous poser, de réfléchir?
J'essaye, mais le quotidien prend vite le dessus sur. Mais j'essaye de me donner des moments où à réfléchir comme ça, mais c'est pas inné, enfin c'est pas naturel.
Dans les prochaines conquêtes sociales, un quart d'heure de philosophie en entreprise.
Oui. En même temps, il y a des gens qui sont très bons philosophes, alors qu'ils n'en ont pas l'étiquette. Et puis je me méfie un peu de ceux qui disent pour philosopher, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de temps, il faut prendre la posture, la pose de celui qui pense. En fait, on réfléchit parfois en faisant la cuisine, en discutant avec un copain, c'est là qu'on nourrit sa pensée. J'aime beaucoup Salvador Dali, et dans une radioscopie de Jacques Chancel, ça, vous vous souvenez de radioscopie?
Oui.
Vous êtes trop jeune, je pense.
Oui.
Il y a un moment, Jacques Chancel veut aller chercher derrière. Dali faisait toujours un spectacle. Et à un moment, il lui dit, Salvador Dali, est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois d'oublier le regard d'autrui, d'oublier le spectacle et de vous mettre dans la position du penseur de Rodin pour philosopher à l'abri des regards? Et Dali lui répond, je vous ai tout de suite que j'ai toujours considéré que la position du penseur de Rodin, vous voyez la position du penseur, est une position idéale pour le chier et non pas pour le philosopher. Et ben, je crois qu'il n'a pas tort, parce que ce n'est pas parce qu'on se met comme ça dans... Par exemple, les gens qui je vais méditer, là, il n'en sort pas grand-chose parfois. Je vais faire le vide en moi, bah oui, vraiment, après, il n'en sort pas grand-chose. Moi, je crois que la philosophie, c'est... On lit des livres, bien sûr, on écrit, bien sûr, mais en même temps, un type qui jardine et qui se lève pour voir le matin, quelqu'un qui regarde les étoiles, la discussion avec autrui, le dialogue, tout seul, on ne va pas très loin. Ça, tout ça, ça fomente au fond de la philosophie, sans forcément qu'on ait besoin de prendre la pose du philosophe.